Livre 8. Le Capitole et son voisinage. Chapitre 1. Dissection des choses majestueuses. La redoutable ascension, qui depuis tant d'heures déjà variait ses éblouissements sur Gwynplaine et qu'il avait emporté à Windsor, le remporta à Londres. Les réalités visionnaires se succédèrent devant lui, sans solution de continuité. Nul moyen de s'y soustraire, quand une le quittait, l'autre le reprenait. Il n'avait pas le temps de respirer. Qui a vu un jongleur, a vu le sort. Ses projectiles tombant, montant et retombant, ce sont les hommes dans la main du destin. Projectiles et jouets. Le soir de ce même jour, Gwynplaine était dans un lieu extraordinaire. Il était assis sur un banc fleur-de-lysée. Il avait, par-dessus ses habits de soie, une robe de velours écarlate doublée de taffetas blanc, avec rochers d'hermine, et aux épaules deux bandes d'hermine brodées d'or. Il avait autour de lui des hommes de tout âge, jeunes et vieux, assis comme lui sur les fleurs de lys, et comme lui vêtu d'hermine et de pourpre. Devant lui, il apercevait d'autres hommes, à genoux. Ces hommes avaient des robes de soie noire. Quelques-uns de ces hommes agenouillés écrivaient. En face de lui, à quelque distance, il apercevait des marches, une estrade, un dais, un large écusson étincelant entre un lion et une licorne. Et sous ce dais, sur cette estrade, au haut des marches, adossé à cet écusson, un fauteuil doré et couronné, c'était un trône. Le trône de la Grande-Bretagne. Gwynplaine était, père lui-même, dans la chambre des pairs d'Angleterre. De quelle façon avait eu lieu cette introduction de Gwynplaine dans la chambre des lords? Disons-le. Toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, depuis Windsor jusqu'à Londres, depuis Corleone Lodge jusqu'à Westminster Hall, avait été une montée d'échelon en échelon. À chaque échelon, nouvel étourdissement. Il avait été emmené de Windsor dans les voitures de la reine, avec l'escorte du impair. La garde qui honore ressemble beaucoup à la garde qui garde. Ce jour-là, les riverains de la route de Windsor à Londres virent galoper une cavalcade de gentilshommes pensionnaires de Sa Majesté, accompagnant deux chaises menées grand train en poste royal. Dans la première était assis l'huissier de la Verge Noire, sa baguette à la main. Dans la seconde, on distinguait un large chapeau à plumes blanches, couvrant d'ombre un visage qu'on ne voyait pas. Qui est-ce qui passait là? Était-ce un prince? Était-ce un prisonnier? C'était Gwynplaine. Cela avait l'air de quelqu'un qu'on mène à la tour de Londres, à moins que ce ne fût quelqu'un qu'on menât à la chambre des pairs. La reine avait bien fait les choses. Comme il s'agissait du futur mari de sa sœur, elle avait donné une escorte de son propre service. L'officier de l'huissier de la Verge Noire était à cheval, en tête du cortège. L'huissier de la Verge Noire avait dans sa chaise, sur un strapontin, un coussin de drap d'argent. Sur ce coussin était posé un portefeuille noir, timbré d'une couronne royale. À Brentford, dernier relais avant Londres, les deux chaises et l'escorte firent halte. Un carrosse décaillé, attelé de 4 chevaux, attendait, avec 4 laquais derrière, 2 postillons devant et un cocher en perruque. Roue, marchepied, soupente, timon, tout le train de ce carrosse était doré. Les chevaux étaient harnachés d'argent. Ce coche de gala était d'un dessin allié et surprenant, et eut magnifiquement figuré parmi les 51 carrosses célèbres dont Roubaud nous a laissé les portraits. L'huissier de la Verge Noire mit pied à terre, ainsi que son officier. L'officier de l'huissier retira du strapontin de la chaise de poste le coussin de drap d'argent sur lequel était le portefeuille à couronne, le prit sur ses deux mains et se tint debout derrière l'huissier. L'huissier de la Verge Noire ouvrit la portière du carrosse, qui était vide, puis la portière de la chaise où était Gwynplaine, et, baissant les yeux, invita respectueusement Gwynplaine à prendre place dans le carrosse. Gwynplaine descendit de la chaise et monta dans le carrosse. L'huissier portant la verge et l'officier portant le coussin y entrèrent après lui et y occupèrent la banquette basse destinée aux pages dans les anciens coches de cérémonie. Le carrosse était tendu à l'intérieur de satin blanc, garni d'entoilages de binche avec crêtes et glands d'argent. Le plafond était armorié. Les postillons des deux chaises qu'on venait de quitter étaient vêtus de hoquetons royaux. Le cocher, les postillons et les laquais du carrosse où l'on entrait avaient une autre livrée, très magnifique. Gwynplaine, à travers le somnambulisme où il était comme anéanti, remarqua cette fastueuse valetaille et demanda à l'huissier de la Verge Noire « Quelle est cette livrée ?» L'huissier de la Verge Noire répondit « La vôtre, milord. » Ce jour-là, la chambre des lords devait siéger le soir. « Curiat erat serena », disaient les vieux procès-verbaux. En Angleterre, la vie parlementaire est volontiers une vie nocturne. On sait qu'il arriva une fois à Sheridan de commencer à minuit un discours et de le terminer au lever du soleil. Les deux chaises de poste retournèrent à vide à Windsor. Le carrosse où était Gwynplaine se dirigea vers Londres. Le carrosse décaillé à quatre chevaux alla au pas de Brentford à Londres. La dignité de la perruque du cocher l'exigeait. Sous la figure de ce cocher solennel, le cérémonial prenait possession de Gwynplaine. Ses retards, du reste, étaient, selon toute apparence, calculés. On en verra plus loin le motif probable. Il n'était pas encore nuit, mais il s'en fallait de peu quand le carrosse décaillé s'arrêta devant la King's Gate, lourde porte surbaissée entre deux tourelles qui communiquait de Whitehall à Westminster. La cavalcade des gentilshommes pensionnaires fit groupe autour du carrosse. Un des valets de pied de l'arrière sauta sur le pavé et ouvrit la portière. L'huissier de la Verge Noire, suivi de son officier portant le coussin, sortit du carrosse et dit à Gwynplaine « Milord, daignez descendre, que votre seigneurie garde son chapeau sur sa tête. » Gwynplaine était vêtu, sous son manteau de voyage, de l'habit de soie qu'il n'avait pas quitté depuis la veille. Il n'avait pas d'épée. Il laissa son manteau dans le carrosse. Sous la voûte carrossière de la King's Gate, il y avait une porte latérale, petite et exhaussée de quelques degrés. Dans les choses d'apparat, le respect est de précéder. L'huissier de la Verge Noire, ayant derrière lui son officier, marchait devant. Gwynplaine suivait. Ils montèrent le degré et entrèrent sous la porte latérale. Quelques instants après, ils étaient dans une chambre ronde et large, avec piliers au centre, un bas de tourelle, salle de rez-de-chaussée, éclairée d'ogives étroites, comme des lancettes d'abside, et qui devait être obscur même en plein midi. Peu de lumière fait parfois partie de la solennité. L'obscur est majestueux. Dans cette chambre, 13 hommes se tenaient debout, 3 en avant, 6 au deuxième rang, 4 en arrière. Des 3 premiers, 1 avait une cotte de velours incarnat, et les 2 autres des cottes vermeilles aussi, mais de satin. Tous 3 avaient les armes d'Angleterre brodées sur l'épaule. Les 6 du second rang étaient vêtus de vestes dalmatiques en moire blanche, chacun avec un blason différent sur la poitrine. Les quatre derniers, tous en moire noire, étaient distincts les uns des autres, le premier par une cape bleue, le deuxième par un Saint-Georges écarlate sur l'estomac, le troisième par deux croix cramoisies brodées sur sa poitrine et sur son dos, le quatrième par un collet de fourrure noire appelé « peau de sabeline ». Tous étaient en perruque, nu-tête, et avaient l'épée au côté. On distinguait à peine leur visage dans la pénombre. Eux ne pouvaient voir la figure de Gwynplaine. L'huissier de la Verge Noire éleva sa baguette et dit « Milord, Fermain Clancharlie, baron Clancharlie et Hunkerville, moi, huissier de la Verge Noire, premier officier de la chambre de présence, je remets votre seigneurie à Jarretière, roi d'armes d'Angleterre. » Le personnage à côte de velours, laissant les autres derrière lui, salua Gwynplaine jusqu'à terre et dit « Milord Fermain Clancharlie, je suis Jarretière, roi d'armes d'Angleterre. Je suis l'officier créé et couronné par sa grâce le duc de Norfolk, comte maréchal héréditaire. J'ai juré obéissance au roi, au père et au chevalier de la Jarretière. Le jour de mon couronnement, où le comte maréchal d'Angleterre m'a versé un gobelet de vin sur la tête, j'ai solennellement promis d'être officieuse à la noblesse, d'éviter la compagnie des personnes de mauvaise réputation, d'excuser plutôt que de blâmer les gens de qualité, et d'assister les veuves et les vierges. C'est moi qui ai charge de régler les cérémonies de l'enterrement des pères et qui ai le soin et la garde de leurs armoiries. Je me mets aux ordres de votre seigneurie. » Le premier des deux autres, en cotte de satin, fit une révérence et dit « Milord, je suis Clarence, deuxième roi d'armes d'Angleterre. Je suis l'officier qui règle l'enterrement des nobles au-dessous des pairs. Je me mets aux ordres de votre seigneurie. » L'autre homme, à côte de satin, salua et dit « Milord, je suis Norroy, troisième roi d'armes d'Angleterre. Je me mets aux ordres de votre seigneurie. » Les six du second rang, immobiles et sans saluer, firent un pas. Le premier à la droite de Gwynplaine dit « Milord, nous sommes les six ducs d'armes d'Angleterre. Je suis York. » Puis chacun des héros ou ducs d'armes prit la parole à son tour et se nomma. « Je suis Lancaster. Je suis Richmond. Je suis Chester. Je suis Somerset. Je suis Windsor. » Les blasons qu'ils avaient sur la poitrine étaient ceux des comtés et des villes dont ils portaient les noms. Les quatre qui étaient habillés de noir, derrière les héros, gardaient le silence. Le roi d'armes, Jarretière, les montra du doigt à Gwynplaine et dit « Milord, voici les quatre poursuivants d'armes. Manteau bleu. » L'homme à la cape bleue salua de la tête. « Dragon rouge. » L'homme au Saint-Georges salua. « Rouge croix. » L'homme aux croix écarlates salua. « Porte-coulisse. » L'homme à la fourrure de sabeline salua. Sur un signe du roi d'armes, le premier des poursuivants, manteau bleu, s'avança et prit des mains de l'officier de l'huissier le coussin de drap d'argent et le portefeuille couronne. Et le roi d'armes dit à l'huissier de la Verge Noire « Ainsi soit, je donne à votre honneur réception de sa seigneurie. » Ces pratiques d'étiquette et d'autres qui vont suivre étaient le vieux cérémonial antérieur à Henri VIII qu'Anne essaya pendant un temps de faire revivre. Rien de tout cela ne se fait plus aujourd'hui. Pourtant, la Chambre des Lords se croit immuable. Et si l'immémorial existe quelque part, c'est là. Elle change toutefois. Et pour si mauvais. Qu'est devenu, par exemple, le Maypole, ce mât de mai que la ville de Londres plantait sur le passage des pairs allant au Parlement. Le dernier qui ait fait figure a été arboré en 1713. Depuis, le Maypole a disparu. Désuétude. L'apparence, c'est l'immobilité. La réalité, c'est le changement. Ainsi, prenez ce titre, Albemarle. Il semble éternel. Sous ce titre ont passé 6 familles. Odo, Mandeville, Béthune, Plantagenet, Beauchamp, Monk. Sous ce titre, Leicester. Se sont succédés 5 noms différents. Beaumont, Brewose, Dudley, Sidney, Cock, sous Lincoln, 6. Sous Pembroke, 7. Etc. Les familles changent sous les titres qui ne bougent pas. L'historien superficiel croit à l'immuabilité. Au fond, nulle durée. L'homme ne peut être que flot. L'onde, c'est l'humanité. Les aristocraties ont pour orgueil ce que les femmes ont pour humiliation. Vieillir. Mais femmes et aristocraties ont la même illusion. Se conserver. Il est probable que la Chambre des Lords ne se reconnaîtra point dans ce qu'on vient de lire et dans ce qu'on va lire, un peu comme la jolie femme d'autrefois qui ne veut pas avoir de rides. Le miroir est un vieil accusé. Il en prend son parti. Faire ressemblant, c'est là tout le devoir de l'historien. Le roi d'armes s'adressa à Gwynplaine. « Veuillez me suivre, Milord. » Il ajouta, « On vous saluera. Votre seigneurie soulèvera seulement le bord de son chapeau. » Et l'on se dirigea en cortège vers une porte qui était au fond de la salle ronde. L'huissier de la verge noire ouvrait la marche. Puis manteau bleu portant le coussin. Puis le roi d'armes. Derrière le roi d'armes était Gwynplaine, le chapeau sur la tête. Les autres rois d'armes, héros, poursuivants, restèrent dans la salle ronde. Gwynplaine, précédé de l'huissier de la verge noire et sous la conduite du roi d'armes, suivit de salle en salle un itinéraire qu'il serait impossible de retrouver aujourd'hui, le vieux logis du Parlement d'Angleterre ayant été démoli. Il traversa, entre autres, cette gothique chambre d'État où avait eu lieu la rencontre suprême de Jacques II et de Monmouth, et qui avait vu l'agenouillement inutile du neveu lâche devant l'oncle féroce. Autour de cette chambre étaient rangés sur le mur, par ordre de date, avec leurs noms et leurs blasons, 9 portraits en pied d'anciens pairs. Lord Nansladron, 1305, Lord Balliol, 1306, Lord Benesdead, 1314, Lord Cantilupe, 1356, Lord Montbegon, 1357, Lord Thibautot, 1372, Lord Zouche of Codnor, 1615, Lord Bellaqua, sans date, Lord Arwen and Surrey, comte de Blois, sans date. La nuit étant venue, il y avait des lampes de distance en distance dans les galeries. Des lustres de cuivre à chandelles de cire étaient allumés dans les salles, éclairés à peu près comme des bas-côtés d'église. On n'y rencontrait que les personnes nécessaires. Dans une chambre que le cortège traversa, se tenaient debout, la tête respectueusement inclinée, les 4 clercs du signet et le clerc des papiers d'État. Dans une autre était l'honorable Philip Sydenham, chevalier Banoé, seigneur de Boimtom en Somerset. Le chevalier Banoé est le chevalier fait en guerre par le roi sous la bannière royale déployée. Dans une autre était le plus ancien baronnet d'Angleterre, Sir Edmund Bacon de Suffolk, héritier de Sir Nicolas, et califi primus baronetorum Anglicae. Sir Edmund avait derrière lui son arcifère portant son arquebuse et son écuyer portant les armes d'Ulster, les baronnets étant les défenseurs nés du comte d'Ulster en Irlande. Dans une autre était le chancelier de l'échiquier, accompagné de ses 4 maîtres des comptes et des 2 députés du Lord Chambellan, chargés de fendre les tailles. Plus le maître des monnaies, ayant dans sa main ouverte une livre sterling, faite, comme c'est l'usage pour les pawns, au moulinet. Ces 8 personnages firent la révérence au nouveau lord. À l'entrée du corridor, tapissé d'une natte, qui était la communication de la chambre basse à la chambre haute, Gwynplaine fut salué par Sir Thomas Mansell de Margam, contrôleur de la maison de la reine et membre du Parlement pour Clamorgan, et la sortie par une députation d'un sur deux des barons des 5 ports, rangés à sa droite et à sa gauche, 4 par 4, les 5 ports étant 8. William Ashburnham le salua pour Hastings, Matthew Haymore pour Douvres, Josiah Burkett pour Sandwich, Sir Philip Butler pour Yes, John Brewer pour New Romney, Edward Southwell pour la ville de Rye, James High pour la ville de Winchelsea et George Naylor pour la ville de Seaford. Le roi d'armes, comme Gwynplaine allait rendre le salut, lui rappela à voix basse le cérémonial. « Seulement le bord du chapeau, milord !» Gwynplaine fit comme il lui était indiqué. Il arriva à la chambre peinte, où il n'y avait pas de peinture, si ce n'est quelques figures de saints, entre autres Saint-Édouard, sous les voussures des longues fenêtres ogives coupées en deux par le plancher, desquelles Westminster Hall avait le bas et la chambre peinte le haut. En deçà de la barrière de bois qui traversait de part en part la chambre peinte, se tenaient les 3 secrétaires d'État, hommes considérables. Le premier de ces officiers avait dans ses attributions le sud de l'Angleterre, l'Irlande et les colonies, plus la France, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Turquie. Le deuxième dirigeait le nord de l'Angleterre, avec surveillance sur les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Pologne et la Moscovie. Le troisième, écossais, avait l'Écosse. Les 2 premiers étaient anglais. L'un d'eux était l'honorable Robert Harley, membre du Parlement pour la ville de New Radnor. Un député d'Écosse, Mungo Graham, esquire, parent du duc de Montrose, était présent. Tous saluèrent Gwynplaine en silence. Gwynplaine toucha le bord de son chapeau. Le garde-barrière leva le bras de bois sur charnière qui donnait entrée sur l'arrière de la chambre peinte, où était la longue table verte drapée réservée au seul lord. Il y avait sur la table un candélabre allumé. Gwynplaine, précédé de l'huissier de la Verge Noire, de manteau bleu et de jarretière, pénétra dans ce compartiment privilégié. Le garde-barrière referma l'entrée derrière Gwynplaine. Le roi d'armes, sitôt la barrière franchie, s'arrêta. La chambre peinte était spacieuse. On apercevait au fond, debout au-dessous de l'écusson royal qui était entre les 2 fenêtres, 2 vieillards vêtus de robes de velours rouge avec 2 bandes d'hermine ourlées de galons d'or sur l'épaule et des chapeaux à plumes blanches sur leurs perruques. Par la fente des robes, on voyait leur habit de soie et la poignée de leur épée. Derrière eux était immobile un homme habillé en moire noire, portant haute une grande masse d'or surmontée d'un lion couronné. C'était le massier des pairs d'Angleterre. Le lion est leur insigne. Et les lions, ce sont les barons et les pairs, dit la chronique manuscrite de Bertrand du Guesclin. Le roi d'armes montra à Gwynplaine les 2 personnages en robe de velours et lui dit à l'oreille « Milord, ceux-ci sont vos égaux. Vous rendrez le salut exactement comme il vous sera fait. Ces 2 seigneuries ici présentes sont 2 barons et vos parrains désignés par le lord chancelier. Ils sont très vieux et presque aveugles. Ce sont eux qui vont vous introduire dans la chambre des lords. Le premier est Charles Mildmay, lord Fitzwater, sixième seigneur du banc des barons. Le second est Augustus Arundel, Lord Arundel de Treris, 38e seigneur du banc des barons. Le roi d'armes, faisant un pas vers les deux vieillards, éleva la voix. Fermin Clancharlie, baron Clancharlie, baron Unkerville, marquis de Corleone en Sicile, salue vos seigneuries. Les deux lords soulevèrent leurs chapeaux au-dessus de leur tête de toute la longueur du bras, puis se recoiffèrent. Gwynplaine leur rendit le salut de la même manière. L'huissier de la Verge Noire avança, puis manteau bleu, puis jarretière. Le massier vint se placer devant Gwynplaine et les deux lords à ses côtés, Lord Fitzwalter à sa droite et Lord Arundel de Treris à sa gauche. Lord Arundel était fort cassé, mais le plus vieux des deux. Il mourut l'année d'après, léguant à son petit-fils John, mineur, sa pairie, qui, du reste, devait s'éteindre en 1768. Ce cortège sortit de la chambre peinte et s'engagea dans une galerie à pilastres où alternaient en sentinelle, de pilastre en pilastre, des pertuisaniers d'Angleterre et des hallebardiers d'Écosse. Les hallebardiers écossais étaient cette magnifique troupe aux jambes nues, digne de faire face, plus tard, à Fontenoy, à la cavalerie française, et à ces cuirassiers du roi, auxquels leur colonel disait « Messieurs les maîtres, assurez vos chapeaux, nous allons avoir l'honneur de charger. » Le capitaine des pertuisaniers et le capitaine des hallebardiers firent à Gwynplaine et aux deux lords parrains le salut de l'épée. Les soldats saluèrent, les uns de la pertuisane, les autres de la hallebarde. Au fond de la galerie resplendissait une grande porte, si magnifique que les deux battants semblaient deux lames d'or. Des deux côtés de la porte, deux hommes étaient immobiles. À leur livrée, on pouvait reconnaître les doorkeepers, garde-porte. Un peu avant d'arriver à cette porte, la galerie s'élargissait et il y avait un rond-point vitré. Dans ce rond-point était assis sur un fauteuil à dossier démesuré un personnage auguste par l'énormité de sa robe et de sa perruque. C'était William Cowper, lord chancelier d'Angleterre. C'est une qualité d'être infirme plus que le roi. William Cowper était myope. Anne l'était aussi, mais moins. Et cette vue basse de William Cowper plut à la myopie de sa majesté et le fit choisir par la reine pour chancelier et garde de la conscience royale. William Cowper avait la lèvre supérieure mince et la lèvre inférieure épaisse, signe de demi-bonté. Le rond-point vitré était éclairé d'une lampe au plafond. Le lord chancelier, grave dans son haut fauteuil, avait à sa droite une table où était assis le clerc de la couronne, et à sa gauche une table où était assis le clerc du Parlement. Chacun des deux clercs avait devant soi un registre ouvert et une écritoire. Derrière le fauteuil du lord chancelier se tenait son massier, portant la masse à couronne, plus le porte-queue et le porte-bourse en grande perruque. Toutes ces charges existent encore. Sur une crédence près du fauteuil, il y avait une épée à poignée d'or, avec fourron et ceinturon de velours bleu. Derrière le clerc du Parlement, un autre officier tenait déployé une autre robe, qui était la robe de Parlement. Ces robes, toutes deux de velours cramoisi, doublées de taffetas blanc, avec deux bandes d'hermine galonnées d'or à l'épaule, étaient pareilles, à cela près que la robe de couronnement avait un plus large rocher d'hermine. Un troisième officier, qui était le librarian, portait sur un carreau de cuir de Flandre le Redbook, petit livre relié en maroquin rouge, contenant la liste des pairs et des communes, plus des pages blanches et un crayon, qu'il était d'usage de remettre à chaque nouveau membre entrant au Parlement. La marche en procession que fermait Gwynplaine entre les deux pères ses parrains s'arrêta devant le fauteuil du lord chancelier. Les deux lords parrains ôtèrent leurs chapeaux. Gwynplaine fit comme eux. Le roi d'armes reçut des mains de manteau bleu le coussin de drap d'argent, se mit à genoux et présenta le portefeuille noir sur le coussin au lord chancelier. Le lord chancelier prit le portefeuille et le tendit au clerc du Parlement. Le clerc vint le recevoir avec cérémonie, puis alla se rasseoir. Le clerc du Parlement ouvrit le portefeuille et se leva. Le portefeuille contenait les deux messages usités, la patente royale adressée à la Chambre des Lords et la sommation de siéger adressée au nouveau père. Le clerc, debout, lut tout haut les deux messages avec une lenteur respectueuse. La sommation de siéger intimée à Lord Fermain Clancharlie se terminait par les formules accoutumées. Nous vous enjoignons étroitement, sous la foi et l'allégeance que vous nous devez, de venir prendre en personne votre place parmi les prélats et les pairs siégeant dans notre Parlement à Westminster, afin de donner votre avis, en tout honneur et conscience, sur les affaires du royaume et de l'Église. La lecture des messages terminée, le lord chancelier éleva la voix. Acte est donné à la couronne. L'ordre Fermain Clancharlie, votre seigneurie, renonce à la transsubstantiation, à l'adoration des saints et à la messe. Gwynplaine s'inclina. Acte est donné, dit le lord chancelier. Et le clerc du Parlement repartit. Sa seigneurie a pris le test. Le lord chancelier ajouta. Milord Fermain Clancharlie, vous pouvez siéger. Ainsi soit, dirent les deux parrains. Le roi d'armes se releva, prit l'épée sur la crédence et en boucla le ceinturon autour de la taille de Gwynplaine. Ce fait, disent les vieilles chartes normandes, le père prend son épée et monte au haut siège et assiste à l'audience. Gwynplaine entendit derrière lui quelqu'un qui lui disait « Je revais votre seigneurie de la robe de parlement. » Et en même temps, l'officier qui lui parlait et qui portait cette robe la lui passa et lui noua au cou le ruban noir du rocher d'Hermine. Gwynplaine, maintenant, la robe de pourpre sur le dos et l'épée d'or au côté, était semblable aux deux lords qu'il avait à sa droite et à sa gauche. Le librarian lui présenta le red book et le lui mit dans la poche de sa veste. Le roi d'armes lui murmura à l'oreille « Milord, en entrant, vous saluerez la chaise royale. » La chaise royale, c'est le trône. Cependant, les deux clercs écrivaient, chacun à sa table, l'un sur le registre de la couronne, l'autre sur le registre du Parlement. Tous deux, l'un après l'autre, le clerc de la couronne le premier, apportèrent leur livre au lord chancelier, qui signa. Après avoir signé sur les deux registres, le lord chancelier se leva. « Lord Fermain Clancharlie, baron Clancharlie, baron Uncerville, marquis de Corleone en Italie, soyez le bienvenu parmi vos pairs. Les lords spirituels et temporels de la Grande-Bretagne. » Les deux parrains de Gwynplaine lui touchèrent l'épaule. Il se tourna. Et la grande porte dorée du fond de la galerie s'ouvrit à deux battants. C'était la porte de la chambre des pairs d'Angleterre. Il ne s'était pas écoulé 36 heures depuis que Gwynplaine, entouré d'un autre cortège, avait vu s'ouvrir devant lui la porte de fer de la geôle de Southwark. Rapidité terrible de tous ces nuages sur sa tête. Nuages qui étaient des événements. Rapidité qui était une prise d'assaut. Chapitre 2. Impartialité. La création d'une égalité avec le roi, dite pairie, fut aux époques barbares une fiction utile. En France et en Angleterre, cet expédient politique rudimentaire produisit des résultats différents. En France, le père fut un faux roi. En Angleterre, ce fut un vrai prince. Moins grand qu'en France, mais plus réel. On pourrait dire moindre, mais pire. La pairie est née en France. L'époque est incertaine, sous Charlemagne, selon la légende, sous Robert le Sage, selon l'histoire. L'histoire n'est pas plus sûre de ce qu'elle dit que la légende. Favin écrit « Le roi de France voulut attirer à lui les grands de son état par ce titre magnifique de Paris, comme s'ils lui étaient égaux. » La pairie se bifurqua très vite et de France passa en Angleterre. La pairie anglaise a été un grand fait et presque une grande chose. Elle a eu pour précédent le White Neigemo saxon, le San danois et le Vavasseur normand se fondirent dans le baron. Baron est le même mot que vir, qui se traduit en espagnol par varon et qui signifie par excellence homme. Dès 1075, les barons se font sentir au roi. Et à quel roi ? À Guillaume le Conquérant. En 1086, ils donnent une base à la féodalité. Cette base est le Doomsday Book, livre du jugement dernier. Sous Jean sans Terre, conflit. La seigneurie française le prend de haut avec la Grande-Bretagne et la pairie de France mande à sa barre le roi d'Angleterre. Indignation des barons anglais. Au sacre de Philippe Auguste, le roi d'Angleterre portait, comme le duc de Normandie, la première bannière carrée et le duc de Guyenne la seconde. Contre ce roi, vassal de l'étranger, la guerre des seigneurs éclate. Les barons imposent au misérable roi Jean la Grande Charte, d'où sort la Chambre des Lords. Le pape prend fait et cause pour le roi et excommunie les lords. La date, c'est 1215, et le pape, c'est Innocent III, qui écrivait le « Veni Sancte Spiritus » et qui envoyait à Jean sans Terre les quatre vertus cardinales sous la forme de quatre anneaux d'or. Les lords persistent. Long duel qui durera plusieurs générations. Pembroke lutte. 1248 est l'année des provisions d'Oxford. 24 barons limitent le roi, le discutent et appellent, pour prendre part à la querelle élargie, un chevalier par comté. Aube des communes. Plus tard, les lords s'adjoignirent deux citoyens par chaque cité et deux bourgeois par chaque bourg. C'est ce qui fait que, jusqu'à Élisabeth, les pairs furent juges de la validité des élections des communes. De leur juridiction naquit l'adage « Les députés doivent être nommés sans les trois P. Sine prece, sine precio, sine poculo. » Ce qui n'empêcha pas les bourgs pourris. En 1293, la cour des pairs de France avait encore le roi d'Angleterre pour justiciable et Philippe le Bel citait devant lui Édouard Ier. Édouard Ier était ce roi qui ordonnait à son fils de le faire bouillir après sa mort et d'emporter ses os en guerre. Sous les folies royales, les lords sentent le besoin de fortifier le Parlement. Ils le divisent en deux chambres, chambre haute et chambre basse. Les lords gardent arrogamment la suprématie. S'il arrive qu'une des communes soit si hardie que de parler des avantagements de la Chambre des lords, on l'appelle au barreau, à la barre, pour recevoir correction et quelquefois on l'envoie à la tour. Même distinction dans le vote. Dans la Chambre des lords, on vote un à un, en commençant par le dernier baron qu'on nomme le puiné. Chaque pair appelé répond « content » ou « non content ». Dans les communes, on vote tous ensemble, par oui ou non, en troupeau. Les communes accusent, les pairs jugent. Les pairs, par dédain des chiffres, délèguent aux communes, qui en tireront parti, la surveillance de l'échiquier, ainsi nommé, selon les uns, du tapis de la table qui représentait un échiquier, et selon les autres, des tiroirs de la vieille armoire où était, derrière une grille de fer, le trésor des rois d'Angleterre. De la fin du XIIIe siècle date le registre annuel, Yearbook. Dans la guerre des deux roses, on sent le poids des lords, tantôt du côté de John de Count, duc de Lancastre, tantôt du côté d'Edmund, duc d'York. Wat Tyler, les Lollards, Warwick, le faiseur de rois, toute cette anarchie mère d'où sortira l'affranchissement, a pour point d'appui, avoué ou secret, la féodalité anglaise. Les lords jalousent utilement le trône. Jalouser, c'est surveiller. Ils circonscrivent l'initiative royale, restreignent les cas de haute trahison, suscitent de faux Richards contre Henri IV, se font arbitre, jugent la question des trois couronnes entre le duc d'York et Marguerite d'Anjou, et au besoin lèvent des armées et ont leur bataille. Shrewsbury, Tewkesbury. Saint-Alban, tantôt perdu, tantôt gagné. Déjà au XIIIe siècle, ils avaient eu la victoire de Leos, et ils avaient chassé du royaume les quatre frères du roi, bâtards d'Isabelle et du comte de la Marche, usuriers tous quatre, et exploitant les chrétiens par les juifs. D'un côté prince, de l'autre escroc, chose qu'on a revue plus tard, mais qui était peu estimée dans ce temps-là. Jusqu'au XVe siècle, le duc normand reste visible dans le roi d'Angleterre, et les actes du Parlement se font en français. À partir de Henri VII, par la volonté des lords, ils se font en anglais. L'Angleterre, bretonne sous Uther Pendragon, romaine sous César, saxonne sous l'Heptarchie, danoise sous Harold, normande après Guillaume, devient, grâce aux lords, anglaise. Puis elle devient anglicane. Avoir sa religion chez soi, c'est une grande force. Un pape extérieur soutire la vie nationale. Une Mecque est une pieuvre. En 1534, Londres congédia Rome. La pairie adopte la réforme et les lords acceptent Luther. Réplique l'excommunication de 1215. Ceci convenait à Henri VIII, mais d'autres égards, les lords le gênaient. Un bouledogue devant un ours, c'est la chambre des lords devant Henri VIII. Quand Wolsey vole Whitehall à la nation, et quand Henri VIII vole Whitehall à Wolsey, qui gronde? Quatre lords, Darcy de Chichester, Saint John de Bledsoe, et deux non-normands, Mountjoy et Mountingale. Le roi usurpe, la pairie empiète. L'hérédité contient de l'incorruptibilité. De là, l'insubordination des lords. Devant Élisabeth même, les barons remuent. Il en résulte les supplices de Durham. Cette jupe tyrannique est teinte de sang. Un vertugadin sous lequel il y a un bio, c'est Élisabeth. Élisabeth assemble le Parlement le moins qu'elle peut et réduit la Chambre des Lords à 65 membres, dont un seul marquis, Westminster, et pas un duc. Du reste, les rois en France avaient la même jalousie et opéraient la même élimination. Sous Henri III, il n'y avait plus que 8 duchés péris, et c'était au grand déplaisir du roi que le baron de Mantes, le baron de Coucy, le baron de Coulommiers, le baron de Châteauneuf en Timerais, le baron de La Fère en Tardenois, le baron de Mortagne et quelques autres encore, se maintenaient baron père de France. En Angleterre, la couronne laissait volontiers les péris s'amortir. Sous Anne, pour ne citer qu'un exemple, les extinctions depuis le XIIe siècle avaient fini par faire un total de 565 péris abolis. La guerre des roses avait commencé, l'extirpation des ducs, que Marie Tudor, à coups de hache, avait achevé. C'était décapiter la noblesse. Couper le duc, c'est couper la tête. Bonne politique, sans doute. Mais corrompre vaut mieux que couper. C'est ce que sentit Jacques Ier. Il restaura le duché. Il fit duc son favori Villiers, qu'il avait fait port. Transformation du duc féodal en duc courtisan. Cela pullulera. Charles II fera duchesse deux de ses maîtresses, Barbe de Southampton et Louise de Kerouel. Sous Anne, il y aura 25 ducs, dont 3 étrangers, Cumberland, Cambridge et Schoenberg. Ces procédés de cour, inventés par Jacques Ier, réussissent-ils? Non. La Chambre des Lords se sent maniée par l'intrigue et s'irrite. Elle s'irrite contre Jacques Ier, elle s'irrite contre Charles Ier, lequel, soit dit en passant, a peut-être un peu tué son père, comme Marie de Médicis a peut-être un peu tué son mari. Rupture entre Charles Ier et la Pairie. Les lords, qui sous Jacques Ier avaient mandé à leur barre la concussion dans la personne de Bacon, font sous Charles Ier le procès à la trahison dans la personne de Stafford. Ils avaient condamné Bacon, ils condamnent Stafford. L'un avait perdu l'honneur, l'autre perd la vie. Charles Ier est décapité une première fois en Stafford. Les lords prêtent main forte aux communes. Le roi convoque le Parlement à Oxford, la Révolution le convoque à Londres. 43 pairs vont avec le roi, 22 avec la République. Dans cette acceptation du peuple par les lords, sort le Bill des droits, ébauche de nos droits de l'homme, vague ombre projetée du fond de l'avenir par la Révolution de France sur la Révolution d'Angleterre. Tels sont les services. Involontaire, soit. Et payé cher, car cette pairie est un parasite énorme, mais considérable. L'œuvre despotique de Louis XI, de Richelieu et de Louis XIV, la construction d'un sultan, l'aplatissement pris pour l'égalité, la bastonnade donnée par le sceptre, les multitudes nivelées par l'abaissement, ce travail turc fait en France, les lords l'ont empêché en Angleterre. Ils ont fait de l'aristocratie un mur, endiguant le roi d'un côté, abritant le peuple de l'autre. Ils rachètent leur arrogance envers le peuple par de l'insolence envers le roi. Simon, comte de Leicester, disait à Henri III « Roi, tu as menti !» Les lords imposent à la couronne des servitudes. Il froisse le roi à l'endroit sensible, à la vénerie. Tout lord, passant dans un parc royal, a le droit d'y tuer un daim. Chez le lord est chez lui. Le roi a prévu la tour de Londres, avec son tarif, pas plus qu'un pair, 12 livres sterling par semaine. On doit cela à la chambre des lords. Plus encore, le roi découronné, on le lui doit. Les lords ont destitué Jean sans terre, dégradé Édouard II, déposé Richard II, brisé Henri VI et ont rendu Cromwell possible. Quel Louis XIV il y avait dans Charles Ier! Grâce à Cromwell, il est resté latent. Du reste, disons-le en passant, Cromwell lui-même, aucun historien n'a pris garde à ce fait, prétendait à la Pairie. C'est ce qui lui fait épouser Élisabeth Bourchier, descendante et héritière d'un Cromwell, Lord Bourchier, dont la Pairie s'était éteinte en 1471, et d'un Bourchier, Lord Robsart, autre Pairie éteinte en 1429. Partageant la croissance redoutable des événements, il trouva plus court de dominer par le roi, supprimé, que par la Pairie, réclamé. Cérémonial des lords, parfois sinistre, atteignait le roi. Les deux porte-glaives de la tour, debout, la hache sur l'épaule, à droite et à gauche du père accusé, comparaissant à la barre, étaient aussi bien pour le roi que pour tout autre lord. Pendant 5 siècles, l'antique chambre des lords a eu un plan et la suivit avec fixité. On compte ces jours de distraction et de faiblesse, comme par exemple ce moment étrange où elle se laissa séduire par la galéasse chargée de fromage, de jambons et de vin grec que lui envoya Jules II. L'aristocratie anglaise était inquiète, hautaine, irréductible, attentive, patriotiquement défiante. C'est elle qui, à la fin du XVIIe siècle, par l'acte dixième de l'an 1694, était au bourg de Stockbridge en Southampton. Le droit de députer au Parlement et forcer les communes à casser l'élection de ce bourg, entaché de fraude papiste. Elle avait imposé le test Jacques, duc d'York, et sur son refus, l'avait exclu du trône. Il régna cependant, mais les lords finirent par le ressaisir et par le chasser. Cette aristocratie a eu, dans sa longue durée, quelque instinct de progrès. Une certaine quantité de lumière appréciable s'en est toujours dégagée, excepté vers la fin, qui est maintenant. Sous Jacques II, elle maintenait dans la chambre basse la proportion de 346 bourgeois contre 92 chevaliers, les 16 barons de Courtoisie et des Saint-Port étant plus que contrebalancés par les 50 citoyens des 25 cités. Tout en étant très corruptrice et très égoïste, cette aristocratie avait, en certains cas, une singulière impartialité. On la juge durement. Les bons traitements de l'histoire sont pour les communes, c'est débattre. Nous croyons le rôle des lords très grand. L'oligarchie, c'est de l'indépendance à l'état barbare, mais c'est de l'indépendance. Voyez la Pologne, royaume nominal, république réelle. Les pairs d'Angleterre tenaient le trône en suspicion et en tutelle. Dans maintes occasions, mieux que les communes, les lords savaient déplaire. Ils faisaient échec au roi. Ainsi, en 1694, année remarquable, les parlements triennaux, rejetés par les communes, parce que Guillaume III n'en voulait pas, avaient été votés par les pairs. Guillaume III, irrité, ôta le chapeau de Pendennis au comte de Basse, et toutes ses charges au vicomte Mordaunt. La chambre des lords, c'était la République de Venise au cœur de la royauté d'Angleterre. Réduire le roi aux doges, tel était son but. Et elle a fait croître la nation de tout ce dont elle a fait décroître le roi. La royauté le comprenait et haïssait la pairie. Des deux côtés on cherchait à s'amoindrir. Ces diminutions profitaient au peuple en augmentation. Les deux puissances aveugles, monarchie et oligarchie, ne s'apercevaient pas qu'elles travaillaient pour un tiers, la démocratie. Quelle joie ce fut pour la cour, au siècle dernier, de pouvoir pendre un père, Lord Ferrers. Du reste, on le pendit avec une corde de soie, politesse. On n'eût pas pendu un pair de France, remarque altière que fit le duc de Richelieu. D'accord, on l'eût décapité. Politesse plus grande. Montmorency Tancarville signait « Pair de France et d'Angleterre », rejetant ainsi la pairie anglaise au second rang. Les pairs de France étaient plus hauts et moins puissants, tenant au rang plus qu'à l'autorité et à la préséance plus qu'à la domination. Il y avait entre eux et les lords la nuance qui sépare la vanité de l'orgueil. Pour les pairs de France, avoir le pas sur les princes étrangers, précéder les grands d'Espagne, primer les patrices de Venise, faire asseoir sur les bassièges du Parlement les maréchaux de France, le connétable et l'amiral de France, fut-il comte de Toulouse et fils de Louis XIV, distinguer entre les duchés mâles et les duchés femelles, maintenir l'intervalle entre un comté simple, comme Armagnac ou Albret, et une comté pairie, comme Évreux, porter de droit, dans certains cas, le cordon bleu ou la toison d'or, à 25 ans, contrebalancer le duc de la Trémoille, le plus ancien pair chez le roi, par le duc d'Uzès, le plus ancien pair en parlement, prétendre à autant de pages et de chevaux au carrosse qu'un électeur, se faire dire « Monseigneur » par le premier président, discuter si le duc du Maine a rang de pair, comme comte d'eux, dès 1458, traverser la grande chambre diagonalement ou par les côtés. C'était la grosse affaire. La grosse affaire pour les lords, c'était l'acte de navigation, le test, l'enrôlement de l'Europe au service de l'Angleterre, la domination des mers, l'expulsion des Stuarts, la guerre à la France. Ici, avant tout, l'étiquette. Là, avant tout, l'Empire. Les pairs d'Angleterre avaient la proie, les pairs de France avaient l'ombre. En somme, la Chambre des lords d'Angleterre a été un point de départ. En civilisation, c'est immense. Elle a eu l'honneur de commencer une nation. Elle a été la première incarnation de l'unité d'un peuple. La résistance anglaise, cette obscure force toute puissante, est née dans la Chambre des lords. Les barons, par une série de voies de fait sur le prince, ont ébauché le détrônement définitif. La Chambre des lords, aujourd'hui, est un peu étonnée et triste de ce qu'elle a fait sans le vouloir et sans le savoir, d'autant plus que c'est irrévocable. Que sont les concessions? Des restitutions. Et les nations ne l'ignorent point. « J'octroie, dit le roi. Je récupère, dit le peuple. » La Chambre des lords a cru créer le privilège des pairs. Elle a produit le droit des citoyens. L'aristocratie, ce vautour, a couvé cet œuf d'aigle, la liberté. Aujourd'hui, l'œuf est cassé, l'aigle plane, le vautour meurt. L'aristocratie agonise, l'Angleterre grandit. Mais soyons justes envers l'aristocratie. Elle a fait équilibre à la royauté. Elle a été contrepoids. Elle a fait obstacle au despotisme. Elle a été barrière. Remercions-la et enterrons-la.